C'était une sorte d'international du crime et de la terreur. Une pieuvre dont les tentacules reliaient plusieurs polices secrètes d'Amérique du Sud entre elles. C'était alors le temps des dictatures militaires. Et les généraux au pouvoir au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Brésil et en Bolivie avaient conclu cette union sacrée pour éliminer plus efficacement leurs opposants de gauche respectifs et d'abord empêcher qu'ils ne trouvent refuge chez leurs voisins. Mais ils n'entendaient pas en rester là. L'ultime phase prévoyait que la guerre anti-subversive s'étendrait en Europe où de nombreux militants démocratiques sud-américains s'étaient exilés. Tortures, assassinats, détentions illégales ont donc été le lot quotidien de cette redoutable alliance qu'on a appelée le plan Condor. Condor comme ce rapace emblématique des montagnes andines. Selon des archives miraculeusement retrouvées en 1992 au Paraguay, plus de 13 000 opposants ont été les victimes de cette sanglante répression. Mais les organisations de défense des droits de l'homme estiment, elles, que le sinistre bilan du plan Condor doit être revu à la hausse. 50 000 assassinats, 35 000 disparitions et des centaines de milliers d'arrestations. Sans compter les centaines de gosses arrachés à leurs parents et placés dans des familles de militaires en mal d'enfants. Cette lutte anti-subversive menée à l'échelle d'un continent n'a pu être organisée sans le soutien actif des services secrets américains. Les États-Unis, toujours prompts à voir la main de Moscou derrière les mouvements qui s'opposaient aux dictatures en place, ont encouragé les acteurs du plan Condor. Peut-être même ont-ils été à l'initiative de ce plan, mais d'après M. X, ils n'ont pas été les seuls et des services français aussi ont collaboré à cette terrible entreprise. La France concernée donc, et d'autant plus que certains de nos concitoyens ont été les victimes des militaires sud-américains. Par exemple, un juge d'instruction, Roger Leloir, instruit toujours les plaintes des familles de 5 Français disparus sous le régime du général Pinochet. Et il faudrait aussi parler d'autres Français résidant en Argentine et qui ont été éliminés par les tortionnaires du général Videla. Autant de victimes du plan Condor.
Condor, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, c'est le nom d'un bel oiseau.
Un très beau rapace, oui. Mais rappelez-vous, les soldats nazis envoyés par Hitler combattre aux côtés des troupes franquistes pendant la guerre civile espagnole.
Ah oui, la Légion Condor, c'est
oui.
Ça.
Oui. Et ce n'est peut-être pas un hasard si presque 40 ans plus tard, les promoteurs du plan Condor ont choisi ce nom. Une fâcheuse réminiscence, mais qui en dit long.
Mais c'est leur conviction politique, c'est ça?
Naturellement. Tous ces militaires sud-américains qui s'étaient emparés du pouvoir par la force étaient des extrémistes de droite.
Ouais, des fascistes.
Si vous voulez, faut pas oublier non plus qu'un grand nombre de nazis ont trouvé refuge en Amérique du Sud après l'effondrement du Troisième Reich. Beaucoup y ont prospéré, certains sont devenus de précieux conseillers pour les polices locales.
Klaus Barbie en Bolivie, par exemple.
Exactement. Ouais. Ou comme les ex-nazis de cette colonie allemande où, sous Pinochet, de nombreux Chiliens ont été séquestrés et brutalisés. Mmh. Mais refermons la parenthèse.
Ouais. Alors, le plan Condor, là, il a été établi quand?
Au milieu des années 70, et très discrètement, bien sûr.
Mmh. Donc, après le putsch de Pinochet, hein?
Oui. Et les deux faits ne sont pas sans rapport, car l'un des inventeurs, si je puis dire, du plan Condor sera justement le chef de la police secrète de Pinochet. Manuel Contreras. Mais autant le dire tout de suite, le plan Condor, même s'il n'avait pas encore été créé, existait déjà en filigrane. Et naturellement, la CIA se trouvait derrière.
Vous allez encore faire de l'anti-américanisme primaire?
Pas du tout. Et la meilleure preuve, c'est que je vous parlerai aussi de l'implication de nos propres services. Enfin, un peu de patience.
Ouais. Alors, la CIA, c'est ça?
Oui, les États-Unis, on en a souvent parlé ensemble, ont toujours considéré qu'ils devaient exercer une sorte de tutelle sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
Ouais. Afin de préserver leurs intérêts économiques.
Essentiellement. Mais il y avait aussi la politique de défense. Et justement, les Américains ont de bonnes raisons de s'inquiéter après la victoire de Fidel Castro.
Ouais, Cuba. Ouais, la peur de la contagion communiste.
Oui, car Fidel Castro et son ami Guevara suscitent de nombreuses vocations en Amérique latine.
Des guérillas.
Oui, c'est une véritable vague révolutionnaire qui déferle dans les années 60. Et à Washington, on se rend compte que la plupart des États latino-américains sont incapables de faire face efficacement à cette subversion qui monte.
Il faut donc les aider.
C'est évident, et sous l'impulsion du président Kennedy, la CIA va renforcer toutes ses antennes en Amérique latine et développer un véritable réseau de services de répression. Ça ressemble beaucoup à ce que les Américains ont créé après-guerre en Europe.
Le réseau Gladio, vous voulez dire.
Oui, un appareil clandestin, destiné d'abord à faire face à une invasion soviétique, mais qui dégénérera bien vite en une organisation anticommuniste qui fricotera avec les pires mouvements d'extrême droite.
Oui, et surtout qui infiltrera les services secrets occidentaux. Hein.
Naturellement, on l'a bien vu en Italie ou en Belgique. Mais enfin, revenons à l'Amérique latine. Les agents de la CIA qui agissent souvent sous la couverture d'organisations humanitaires, comme par exemple l'Agence pour le développement international, sont donc chargés de conseiller et d'instruire les policiers locaux. Et parfois, bien entendu, ils mettent eux-mêmes la main à la pâte.
Mais quand vous parlez d'instruction, c'est ça?
Oui, il ne faut pas se voiler la face. Il s'agit de les familiariser avec les méthodes de répression les plus dures. Et c'est là que les Français vont jouer un rôle.
Attendez, pourquoi les Français?
Parce qu'il se trouve qu'en matière de lutte antisubversive, nous avons une certaine expérience.
Vous allez dire quoi, l'Algérie?
Et avant l'Algérie, l'Indochine.
Vous voulez parler de la guerre psychologique, c'est ça?
Oui, cette doctrine de la guerre antisubversive qui a été mise au point par de jeunes officiers français engagés en Indochine. Des hommes qu'on retrouvera plus tard en Algérie, où ils appliqueront systématiquement leur théorie avec la brutalité qu'on sait, enfin en particulier lors de la bataille d'Alger.
Ce seront aussi les inspirateurs du putsch des généraux.
Tout à fait.
Et en quoi, on ne va pas aller trop loin, mais enfin en quoi consiste exactement cette doctrine-là?
D'abord, ces jeunes officiers se sentent investis d'une mission. Ils sont les défenseurs du monde libre et de l'Occident chrétien.
Contre le communisme.
Évidemment.
Ouais. En Algérie aussi?
Bon, ils ne font aucune différence entre les maquisards communistes qu'ils ont combattus dans la jungle indochinoise et les Felagars.
C'est le même combat qui continue.
Tout à fait. Alors comment lutter avec le maximum d'efficacité contre les communistes, sinon en s'imprégnant de leur propre méthode? C'est ainsi que ces officiers, parmi lesquels le colonel Trinquier sera un pionnier et un maître à penser, lisent assez naïvement Mao Zedong. Et ils y découvrent que le militant révolutionnaire doit évoluer au milieu de la population comme un poisson dans l'eau.
Ouais, formule célèbre.
Bien sûr. Par conséquent, si on veut capturer les révolutionnaires ou les éliminer, il faut vider le bocal dans lequel nagent les poissons.
Et donc s'attaquer à la population.
Ou au minimum faire en sorte que ces militants révolutionnaires ne soient plus en sécurité parmi cette population.
Oui, mais concrètement, comment ça se traduit?
Par la peur, l'insécurité, le soupçon permanent. Prenons en exemple la bataille d'Alger où l'armée s'est vue confier les plein pouvoir. Trinquier, qui mène lui-même les opérations sous la direction du général Massu, met en pratique ces théories.
Mais comment
La ville est systématiquement découpée en secteurs, les habitants algériens sont fichés, les rafles sont innombrables, les suspects automatiquement torturés, et quelques-uns disparaissent à tout jamais.
Ouais. Les tristement célèbres crevettes Bijard.
Oui. Tous ces hommes qu'on retrouvera dans le port d'Alger, les pieds lestés de béton, d'autres retournés ou pas, sont sciemment relâchés dans la nature.
Afin qu'on les considère aussitôt comme des traîtres.
Oui.
Et ils sont ensuite victimes de leurs propres frères parce qu'on les soupçonne d'avoir parlé.
Bien entendu. Le résultat, c'est que la population musulmane est terrorisée. On voit des mouchards partout. Et les rares militants FLN qui n'ont pas été arrêtés doivent fuir la ville en toute hâte et gagner le bled.
Techniquement, au moins, c'est donc un succès.
Faut malheureusement reconnaître, oui. Les parades Massu ont gagné la bataille d'Alger. Ils ont eu l'impression d'effacer l'humiliation indochinoise.
Mais ils ont perdu leur arme.
Bon, ça, c'est libre à vous de le penser. Mais pour ces officiers théoriciens de l'action psychologique, seule l'efficacité comptait.
La fin est peu importait les moyens.
Toutefois, je ne veux pas leur trouver des excuses. Il faut souligner la responsabilité du pouvoir politique. C'est quand même Paris et le gouvernement de Guy Mollet qui ont fini par accepter que l'armée soit dotée des pleins pouvoirs à Alger.
D'accord, mais enfin, il semble bien que le président du Conseil a été mis devant le fait accompli par... Robert Lacoste, qui était alors le ministre résident à Alger.
Hein. Qu'est-ce que ça change? Guy Mollet pouvait désavouer son ministre, il ne l'a pas fait.
Bien, bien. Et si nous revenions à l'Amérique latine, c'est donc l'expérience acquise par les militaires français qui intéresse la CIA, c'est ça?
Oui, et on va retrouver à cette occasion un homme qui a récemment défrayé la chronique.
Et qui alors?
Le général Osares, l'homme qui n'a pas hésité à revendiquer haut et fort son passé de tortionnaire et de tueur.
Je vous l'ai dit au début de cette émission, à Paris, un juge d'instruction, Roger Leloir, instruit les plaintes de plusieurs familles de citoyens français disparus sous la dictature argentine. En mai 2001, il convoque un spécialiste, le trop célèbre général Osares, dont M. X vient de nous dire qu'il a joué un rôle en Amérique du Sud. Dans son numéro du 15 juin, le magazine Le Point commente sous la signature de Pierre Abramovici. On sait le général octogénaire, intarissable sur la torture en Algérie, que sa mémoire est d'une effarante précision et que ses déclarations sont d'un cynisme gênant. Le juge Leloir ne conçoit donc pas la moindre inquiétude À lui, le magistrat dont l'instruction a démarré à la suite de la plainte de famille de disparus français au Chili en Argentine au début des années 70, le général, pense-t-il, va tout détailler sur son rôle en Amérique latine à cette époque. Mais Osares n'a pas passé sa vie dans les services secrets pour rien. S'il parle ou s'il écrit, c'est qu'il l'a décidé. Et là, surprise, au palais de justice, sa mémoire flanche sur les événements d'Amérique latine. Il ne sait même pas, affirme-t-il au juge, ce qu'est un deuxième bureau, le service de renseignement de chaque état-major. Tout juste, admet-il du bout des lèvres qu'il est effectivement un spécialiste de la lutte anti-subversive. Et surtout, il confirme ce que le juge sait déjà, il a bien été l'attaché militaire français au Brésil entre 1973 et 1975.
Osares, c'est un militaire, mais d'abord un homme des services.
SDEC ?
Oui, comme Trinquier. Lorsque ce dernier a créé en Indochine le fameux groupement des commandos mixtes aéroportés, c'était à la demande du SDEC. Mais nous en avons déjà parlé.
Ouais, la drogue.
Oui, les parades Trinquier, pour s'assurer de la collaboration des Méo, se sont mués en trafiquant d'opium. Enfin, passons. Osares, pour revenir à lui, était l'un des officiers du 11e choc, le bras armé des services spéciaux.
Ouais. Et c'est en tant que tel qu'il a servi en Algérie ?
Exact. C'est ce spécialiste hautement qualifié de la guerre antisubversive qui a intéressé les Américains. Mais une petite parenthèse auparavant. Inspirés ou non par les Américains, ce sont d'abord les militaires argentins qui sont venus quêter les conseils éclairés des parades d'Alger.
Ouais, pourquoi les Argentins ?
Au milieu des années 50, en 1955 je crois, Perón a été renversé par une junte militaire. Mais les péronistes très influents dans les couches populaires ne se sont pas résignés. Et le nouveau pouvoir doit faire face à une sérieuse agitation.
Mmh. D'où l'idée d'appliquer les méthodes des officiers paras.
Oui, un colonel qui sera, notez-le bien, le futur chef de la police sous la dictature de Videla, vient à Paris. De retour dans son pays, il crée, à l'école de guerre, un cours sur la guerre révolutionnaire communiste.
Ça mérite d'être clair.
En effet. Un peu plus tard, après le 13 mai 58, de jeunes officiers argentins viendront aussi faire un voyage d'études à Alger.
À la source, donc.
Et en parfait accord avec les autorités de notre pays. Et l'affaire se terminera par l'envoi en Argentine d'une mission militaire française permanente, chargée d'enseigner les méthodes de la guerre antisubversive. On retrouvera bien sûr la plupart des officiers qui suivront ces cours très spéciaux dans les équipes qui multiplieront les exactions et les assassinats sous la dictature dans les années 70. Le futur général Videla sera d'ailleurs un auditeur très attentif de cet enseignement distribué par des instructeurs français.
Alors si je vous suis mis à la France, a donc une responsabilité indirecte dans ce qui s'ensuivra.
On ne peut malheureusement le nier. Remarquez que cette coopération militaire avait aussi un autre avantage pour Paris. Ça permettait d'éloigner quelques officiers français un peu trop remuants qui auraient à l'évidence rejoint le quartier des généraux putschistes d'Alger.
Ouais, effectivement, c'est pratique. Et où ça reste alors ?
Lui, à l'époque, il n'a pas encore mis ses talents au service des militaires d'Amérique du Sud. Ça viendra plus tard. Mais il a déjà été repéré par la CIA et au début des années 60, il devient instructeur à Fort Bragg, une école américaine très confidentielle où sont formées les forces spéciales et les hommes de la CIA.
Il y va en tant que représentant des services secrets ?
Naturellement, il ne pouvait en être autrement. Et répétons-le encore une fois, c'est le spécialiste incontesté de la guerre antisubversive qui a attiré l'attention des Américains. Une guerre qu'ils s'apprêtent d'abord à mener au Vietnam, où ils vont se trouver de plus en plus engagés. L'un des élèves d'Osares sera d'ailleurs nommé ambassadeur à Saigon. Et il mettra à profit l'enseignement qu'il a reçu. Ça se traduira par quelques milliers d'arrestations arbitraires et d'exécutions sommaires.
Ce que vous dites est très grave, parce que ça signifie que nos services secrets ont été directement impliqués.
Il faut le reconnaître. Et plus tard, quand le plan Condor sera mis en place, nous ne manquerons pas d'être immédiatement informés.
Oui, à cause de ces liens qui ont été tissés au fil des années.
Oui. Ouais.
Mais comment, enfin, expliquer ou justifier cet engagement français ?
D'abord, il faut bien avouer que dans les services actions, on ne trouvait pas beaucoup de progressistes. Bien au contraire. Il faut rappeler, par exemple, que le SDEC n'a jamais voulu s'engager dans la lutte contre l'OAS.
Ouais, ce qui explique que le gouvernement ait fait appel à des barbouzes.
Et à d'authentiques truands. La seconde raison est plus terre-à-terre. C'était quand même la première fois que les Américains reconnaissaient notre compétence. Vous vous rendez compte ? La puissante CIA faisait appel à nos spécialistes. Elle leur demandait d'instruire ces cadres.
Et ça flattait, comment dire, notre fierté.
Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi un type comme Osares a collaboré sans état d'âme avec ses collègues d'outre-Atlantique. Après tout, pour lui, c'est la même guerre qui se poursuivait, une guerre à l'échelon du monde entier contre la subversion et le communisme au nom de l'Occident chrétien.
Ouais. Est-ce que l'enseignement de Osares va aussi bénéficier aux agents de la CIA qui vont intervenir en Amérique latine ?
Forcément. Les pays sont différents, mais les méthodes sont les mêmes. Et les recettes qui ont été utilisées à Alger et au Vietnam vont servir en Amérique du Sud. Et cela avant même l'élaboration du plan Condor, c'est-à-dire avant que les dictatures militaires en place dans les années 70 n'unissent leurs efforts pour lutter contre leurs opposants de gauche.
Vous avez dit plus haut que très peu de temps après la victoire de Fidel Castro à Cuba, la CIA renforce ses stations en Amérique latine.
Oui, il s'agit, si vous me passez l'expression, de muscler les services de répression de ce pays.
Et alors, de leur transmettre les leçons qu'ils ont eux-mêmes apprises des Français.
C'est ça, hein, et à cet effet, le président Eisenhower...
Eisenhower, dont, il faut le rappeler, dont le vice-président était Richard Nixon. Hein.
Vous avez raison de le souligner, car Nixon et son secrétaire d'État, Henry Kissinger, auront plus tard une grande responsabilité dans la genèse du plan Condor. Donc, Eisenhower, peu de temps avant la fin de son deuxième mandat, crée un office de sécurité publique, OPS en anglais.
Dans quel but alors ?
Bon, au départ, il s'agit, en liaison avec la CIA, d'implanter des hommes au sein des polices à travers le monde.
Des agents, vous voulez dire ?
Bien sûr. Mais c'est avec l'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche que l'OPS va donner toute sa mesure. L'objectif est maintenant de fournir aux différentes polices l'instruction et l'équipement qui leur permettront d'être le plus efficace possible dans la lutte contre la subversion. On envoie donc des spécialistes de la CIA qui, sous couvert d'actions humanitaires, vont former à leur tour des techniciens locaux.
Ouais, des techniciens.
Bah oui, comment voulez-vous les appeler autrement ? Ces types ont appris à tuer, à torturer, c'est leur métier. C'est ainsi qu'on va assister à la création de véritables escadrons de la mort qui vont semer la terreur.
Ouais, des escadrons qui regroupent ces techniciens, comme vous dites.
Oui, on y trouve des policiers, des militaires, des hommes qui, selon les pays, agissent plus ou moins officiellement.
Ouais, toujours sous le contrôle des hommes de la CIA ?
Presque toujours.
Alors, vous parlez de quelles années, là ?
Des années 60 et du début des années 70.
C'est-à-dire à une époque où certains pays d'Amérique du Sud ne sont pas encore dirigés par des militaires.
C'est juste. Mais même dans les pays encore soi-disant démocratiques, les militaires piaffent. Et ils ne s'embarrassent pas de trop de précautions ou de scrupules quand il s'agit de lutter contre les mouvements d'extrême-gauche qui s'inspirent directement de l'expérience castriste. Bien sûr, les gouvernements ferment les yeux, ils ne peuvent pas faire autrement.
La menace des militaires ?
Et la pression des États-Unis. Une pression physique et constante. Rappelez-vous la traque de Che Guevara en 1967. Ce sont les para-américains qui sont directement engagés aux côtés des Rangers boliviens. Et c'est de l'anglais, le siège de la CIA, que viennent les ordres.
Mais quand nous en avons parlé, vous m'avez laissé entendre que le Che avait été trahi par les siens ?
Oui, par Moscou, allié objectif de Washington. Moscou qui n'avait nulle sympathie pour un gauchiste qui n'hésitait pas à mettre en cause l'impérialisme soviétique. Mais il me semble qu'une nouvelle fois, nous nous éloignons.
Ouais, cette fois-ci, c'est de ma faute. Hein.
Avez-vous vu le film de Costa Gavras, État de siège ?
Oui, avec Yves Montand dans le rôle principal. Hein.
Oui, ouais. Ce film, comme souvent chez Costa Gavras, a été inspiré par une histoire vraie. La vie et la mort d'un de ces techniciens dont je vous parlais. Un technicien de la torture, un certain Dan Mitrion.
Je reviens un instant à l'excellente enquête de Pierre Abramovici, parue en juin 2001 dans le magazine Le Point, et j'y lis ceci. De 1956 à 1963, les Français auront formé toute la génération montante des militaires argentins. En 1963, les instructeurs français connaîtront pourtant une éclipse après qu'un énième coup d'État a porté au pouvoir une frange pro-américaine de l'armée. Malgré tout, la mission militaire française est maintenue, passant de la lutte anti-subversive aux ventes d'armes, jusqu'au début des années 70. En 1973, les affaires reprennent. Le retour du général Perón après 20 ans d'exil, puis sa mort l'année suivante, marque le début du chaos politique en Argentine. L'armée, qui se considère garante de la sécurité de l'État, commence sa guerre contre les opposants et les guérillas d'extrême-gauche. En 1973, des soldats argentins participent à des stages de lutte anti-subversive, notamment dans le sud du pays. On leur diffuse des films sur la guerre d'Algérie. Uniquement les scènes de torture, dira l'un d'entre eux. Il s'agit sans doute du film de Gilles Pontecorvo, La bataille d'Alger, dont Trinquier a fait l'éloge public en insistant sur sa véracité documentaire. À Paris, on enregistre la demande de l'armée de terre argentine de voir la mission militaire française revenir à sa fonction originelle. Pierre Messmer, devenu Premier ministre de Georges Pompidou, c'est que les Argentins souhaitent le retour des instructeurs français spécialisés dans la guerre anti-subversive. Ils le confirment aujourd'hui. Ils les voulaient, ils les ont eus. L'Argentine est un pays indépendant, il n'y avait pas de raison de leur refuser ce qu'ils demandaient. Un peu plus loin, Abramovici écrit encore qu'un certain lieutenant-colonel Henri Grand-Desnon Dans un discours devant l'école de guerre de Buenos Aires, prononcé en 1960, met l'accent sur la place centrale de l'armée dans le contrôle social de la population et la destruction des forces révolutionnaires. Les dictateurs argentins ne diront pas autre chose.
Parlez-moi de ce Mitrione.
Volontiers, parce que l'histoire de ce type illustre parfaitement l'action de la CIA en Amérique du Sud dans ces années-là. Et les promoteurs du plan Condor ne feront au fond que reprendre à une plus grande échelle les méthodes et les idées de Mitrione et des siens.
Alors d'où vient-il ce type-là ?
Mitrione, grand, blond et baraqué, a commencé sa carrière dans la police, tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Simple flic ?
Oui, mais doué, semble-t-il, d'un remarquable sens de l'organisation. Il gravit peu à peu les échelons et entre au FBI. Et en 1960, sans doute sélectionné par l'OPS, cet office de sécurité dont je vous ai parlé, il est envoyé au Brésil.
Sa mission.
Mitrione est officiellement consultant en sécurité, c'est-à-dire qu'il est chargé d'instruire les policiers brésiliens et de les familiariser avec les matériels les plus modernes, utilisation de la radio, installation de caméras de surveillance dans les lieux publics, masques à gaz, bombes lacrymogènes, etc.
Ouais, jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose à redire.
Vous avez raison. Apparemment, son travail est anodin et relève de la simple coopération internationale.
Ouais, en réalité,
l'agent Mitrione apprend aux policiers brésiliens les techniques d'interrogatoire les plus sophistiquées.
La torture, vous voulez dire ?
Naturellement, car Mitrione est devenu un spécialiste. Il a même théorisé ce qu'il n'hésite pas à considérer comme une sorte d'art.
L'art de torturer.
Exactement. Et ses cours commencent toujours par une véritable leçon d'anatomie. Il s'agit de faire comprendre à ses étudiants comment fonctionne le système nerveux humain. Selon lui, il faut d'abord, avant toute chose, évaluer l'état physique du sujet qu'on va interroger.
Ouais. Qu'on va torturer, vous voulez dire ?
Bon, pour Mitrione, il n'y a pas de différence. Ce diagnostic est très important. L'Américain préconise même de faire passer préalablement au sujet un véritable examen médical.
Avant de le torturer, pourquoi alors ?
Pour déterminer jusqu'où on peut aller dans l'interrogatoire.
Ouais, c'est-à-dire dans les souffrances qu'on inflige.
C'est cela. Car affirme Mitrione, une mort prématurée est toujours un échec.
C'est monstrueux tout ça.
Je vous fais pas dire. J'ajoute que lorsqu'il le faut, il se livre à des travaux pratiques. En Uruguay, où il sera nommé plus tard à seule fin de démonstration, il fera rafler des mendiants et leur infligera des séances de gégène en faisant varier les voltages.
Le gégène que les parents utilisaient en Algérie.
Oui, oui, une simple magnéto de campagne, un engin portable.
Ah, je vois que les leçons du brave général Osares n'ont pas été oubliées.
Oui, mais Mitrione a perfectionné le système, lui. Il emploie aussi des substances chimiques. Le but, c'est de conditionner le sujet, le ramollir, selon les propres termes de l'agent américain. Enfin, lui faire comprendre qu'il est seul dans un monde à part, hors de la réalité. Et pour commencer, on ne lui pose aucune question, mais on le frappe et on l'insulte.
C'est quoi ? C'est l'humiliation, ça ?
Oui, l'humiliation, après seulement le véritable interrogatoire, peut débuter.
J'interromps un instant, Monsieur X. J'ai retrouvé en effet un témoignage hallucinant, le récit, d'un agent double cubain, un certain Manuel Evia, qui a été l'un des élèves de Mitrione et a confié à un journaliste américain les propos que le tortionnaire lui avait tenus sur ses méthodes d'interrogatoire pour faire parler un suspect. À partir de là, la seule douleur qu'il ressentira viendra de l'instrument que vous aurez choisi durant l'interrogatoire. Vous devez éviter que la personne perde tout espoir de survie. Si vous allez trop loin, il se résignera à mourir. Il faut toujours lui laisser un espoir, une faible lueur d'espoir. Quand vous avez obtenu ce que vous voulez, le mieux et de continuer l'interrogatoire avec encore plus de coups et d'humiliation. Non pour obtenir plus d'informations, mais comme instrument politique pour l'effrayer au maximum. Avant toute chose, vous devez être efficace. Vous devez faire le strict nécessaire en matière de dommages et contrôler votre humeur dans toutes les situations. Vous devez agir avec la précision et la propreté d'un chirurgien et avec la perfection d'un artiste. C'est un boulot difficile, mais qui doit être fait ? C'est nécessaire. Pour ma part, c'est mon truc, et je le fais à la perfection. Je suis le meilleur.
Il me faut ajouter, même si je n'en ai pas la preuve formelle, que Dan Mitrione a sans doute été l'inventeur des terribles escadrons de la mort. Au départ, ces escadrons de tueurs sont composés de policiers qui décident de faire justice eux-mêmes en éliminant des délinquants. Mais peu à peu, cette méthode radicale sera appliquée aux opposants politiques.
Sous l'impulsion de Mitrione ?
Vraisemblablement, oui.
Vous avez dit que ce Mitrione allait ensuite être nommé en Uruguay, c'est
oui.
Ça ?
Oui, et alors que le président brésilien élu vient d'être déposé par les militaires. En Uruguay, le régime, qui est en principe encore démocratique, doit faire face à la rébellion d'un mouvement d'extrême-gauche, les fameux Tupamaros.
Tupamaros, en fait, ça veut dire quoi, ça ?
Tupamaros, ça vient du nom d'un chef inca, Tupac Amaru, tué au XVIIIe siècle par les Espagnols. Le mouvement est né au début des années 60 de la protestation d'ouvriers de l'industrie du sucre. Et très vite, il a rallié d'autres couches de la population.
C'est un mouvement clandestin. Hein?
Oui, un mouvement bien organisé, bien structuré, qui a mené des opérations de guérilla très démonstratives, mais aussi des hold-up ou des enlèvements d'hommes politiques, par exemple. À noter que les Tupamaros ont évité autant qu'il était possible de verser inutilement le sang et qu'ils se sont toujours attachés à dénoncer la corruption.
Ouais. Mitrione est donc envoyé en Uruguay pour lutter contre les Tupamaros.
C'est évident. Mmh. Même si officiellement il agit en tant que fonctionnaire de l'Agence pour le développement international. Il va donc exercer le métier qu'il connaît le mieux. La formation, l'instruction et la modernisation de la police uruguayenne.
Et la torture.
Bien entendu. Il a même fait installer chez lui une cave insonorisée où il procède à des démonstrations.
Mmh. Eh bien. Et son action alors contre les Tupamaros est efficace?
Oui, il leur porte des coups très durs. De nombreux Tupamaros sont arrêtés. Mais les méthodes de Mitrione sont telles qu'elles font l'objet d'une enquête d'une commission sénatoriale. Le rapport des sénateurs dénonce les arrestations arbitraires et l'utilisation systématique de la torture.
Oui, mais est-ce que la publication de ce rapport sera suivie des faits?
Non, mais ça explique la suite.
C'est-à-dire?
En juillet 1970, les Tupamaros réussissent l'une de leurs opérations les plus spectaculaires. Ils kidnappent Mitrione. Et en échange de sa vie, ils exigent la libération de 150 d'entre eux arrêtés par la police.
Le gouvernement uruguayen va-t-il être tenté de céder?
Non. Non, car il subit une forte pression de Washington. La conséquence de ce refus est prévisible. 5 jours plus tard, on retrouve le corps de Mitrione sur la banquette arrière d'une voiture volée. L'agent américain a été abattu.
Vous semblez laisser entendre là que, qu'au fond, Mitrione a été lâché par les Américains?
J'en suis sûr. Surtout quand on sait que dès qu'un citoyen américain est séquestré quelque part dans le monde, Washington fait des pieds et des mains pour obtenir sa libération.
Mais alors pourquoi aurait-il été lâché par les siens?
Trop voyant, trop exposé et pour tout dire trop embarrassant.
À cause de ses méthodes?
Oui. Le trop zélé Mitrione a été sacrifié. Enfin, rassurez-vous, aux États-Unis, il est devenu aussitôt un héros. Lors de ses obsèques solennelles, on a vu les plus grandes vedettes, toute la bande de Frank Sinatra et bien sûr de nombreuses personnalités politiques dont le secrétaire d'État de l'époque. Faut pas oublier que Mitrione était officiellement le représentant d'une organisation humanitaire.
Un héros, oui. Le professeur de torture Dan Mitrione. À tel point que le porte-parole de la Maison-Blanche a pu déclarer « Le dévouement de M. Mitrione au service de la paix et pour un monde ordonné restera comme un exemple pour tous les hommes libres de la planète. » Enfin, je me suis reporté au livre « Les maîtres espions » de Roger Faligo et Rémi Koffer, publié chez Robert Laffont. Ces deux auteurs confirment dans une large mesure les propos de M. X. Il s'agit de créer. Dans tout le continent, des appareils de renseignement et de contre-guérilla aptes à affronter l'adversaire. Pour ce faire, la CIA renforce ses stations dans les capitales d'Amérique latine. Simultanément, des spécialistes sont envoyés dans tous les pays du continent. Comme Dan Mitrione, ils y formeront les services de répression locaux. Le tout sous le contrôle direct de l'agence qui se réserve le monopole de la vision générale du travail au niveau continental. Cette politique implique à l'évidence la généralisation des méthodes répressives très dures, faisant fi dans de nombreux cas des droits de l'homme. Tant pis, s'il faut se salir les mains, l'efficacité est à ce prix, estime-t-on, à l'anglais. Et sème dans toute l'Amérique latine les escadrons de la mort. Quels que soient leurs sigles, leurs chefs et leurs effectifs, ces groupes anti-subversifs, pratiquant les enlèvements anonymes, la torture et l'assassinat, se réclament d'une idéologie commune et utilisent des méthodes similaires. D'ailleurs, les services de renseignement des divers pays d'Amérique latine qui les manipulent sauront tisser entre eux des liens très solides. Voici le modus operandi de beaucoup de disparitions. L'intéressé est enlevé dans son pays, transféré clandestinement dans un pays allié, assassiné sur place et enfin enterré ou dissous dans un bain de chaux vive. Pas de traces, pas de cadavres, pas de problème. C'est donc déjà l'amorce du plan Condor. Nous verrons la suite avec Monsieur X dans la deuxième partie de ce long entretien. On l'a appelé le plan Condor, une internationale de la terreur, la collaboration secrète entre les polices de plusieurs pays d'Amérique du Sud pour mieux traquer opposants et dissidents. Ce pacte aurait été conclu en 1975, mais nous l'avons vu avec M. X la semaine passée, c'est dès 1960 que s'ébauche cette internationale des pays du cône sud de l'Amérique sous l'égide des services secrets américains. Washington craint en effet que la vague révolutionnaire née de la victoire de Fidel Castro à Cuba ne déferle sur tout le continent. Le premier, le président Eisenhower, crée un organisme, l'Office de sécurité publique, chargé de former et instruire les polices latino-américaines afin de mieux lutter contre la subversion. Il s'agit alors, selon M. X, d'implanter un véritable réseau contre-révolutionnaire un peu à l'image de l'organisation anticommuniste Gladio, créée en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Les spécialistes américains vont s'inspirer des méthodes coercitives utilisées par les militaires français en Indochine et surtout en Algérie, en particulier lors de la bataille d'Alger. Mieux, des officiers français, appartenant souvent à nos services spéciaux, sont envoyés aux États-Unis ou en Argentine, où ils enseignent les théories de la guerre psychologique et anti-subversive. Des missions qui ont naturellement reçu l'aval de Paris. Parmi ces instructeurs très particuliers, un certain Osares, qui fera parler de lui beaucoup plus tard. Les leçons des Français portent leurs terribles fruits. La pratique de la torture se généralise dans les commissariats sud-américains ou les casernes, et des escadrons de la mort traquent les opposants. Parfois, les agents de la CIA mettent eux-mêmes la main à la pâte. C'est le cas d'un certain Dan Mitrion, l'homme dont l'histoire a inspiré le cinéaste Costa Gavras dans « État de siège ». En 1970, Mitrion, officiellement fonctionnaire d'une organisation humanitaire, est enlevé par des révolutionnaires uruguayens, les Tupamaros, qui réclament la libération de 150 d'entre eux. Mais le gouvernement est fermement invité par Washington à ne pas céder aux exigences des révolutionnaires. 5 jours plus tard, Mitrion est exécuté. Pour M. X, il ne fait nul doute qu'on s'est ainsi débarrassé d'un homme dont les méthodes brutales dénoncées par des parlementaires uruguayens risquaient de faire scandale un jour ou l'autre. Ce qui n'empêchera pas les Américains de célébrer Mitrion comme un héros du monde libre. Et peu d'années après, en 1975, le plan Condor va institutionnaliser la terreur dans les 6 pays du cône sud. Là aussi, les services secrets américains ne resteront pas inertes.
Le plan Condor, on savait qu'il existait. C'était un pacte occulte qui regroupait les services spéciaux de 6 pays. 6 dictatures militaires sévissaient au Chili, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay et en Bolivie. On savait donc, mais officiellement on ignorait jusqu'où était allée cette coopération.
Oui. Enfin, attendez, avant d'aller plus loin, vous m'avez laissé entendre dans la première partie de cet entretien que nos propres services étaient très bien informés.
Oui, c'est évident. Il ne faut pas oublier que c'était des officiers du SDEC qui avaient préalablement instruit leurs homologues américains et sud-américains. Mmh. Ils leur avaient appris les méthodes, les préceptes de la sale guerre, comme on l'a appelé.
Oui, c'est-à-dire la guerre anti-subversive.
Oui, je n'y reviens pas, nous en avons déjà longuement parlé. Mais il était logique que des liens aient été conservés, enfin au moins entre les hommes.
Et pas entre les institutions?
Bon, ça c'est autre chose. Vous savez bien que dans les services, beaucoup de gens généralement classés à droite avaient été hostiles à la politique anti-américaine du général de Gaulle. Alors pour cela, nous devions nous ranger clairement dans le camp occidental. La conséquence, c'est que nous devions garder des rapports étroits avec la CIA.
En contradiction avec la politique officielle.
Bien sûr, puisque de Gaulle avait décidé que nos services de renseignement ne devaient pas agir seulement contre le camp communiste. Et lorsqu'après le départ du général, Georges Pompidou a nommé à la tête du SDEC Alexandre de Maranche, un atlantiste convaincu, dans les services, certains se sont ouvertement réjouis.
D'ailleurs, il était donc possible de travailler à nouveau avec nos alliés américains.
Ah, tout à fait. Ouais. C'est pourquoi les Français n'ont pas ignoré grand-chose du plan Condor et de ses horreurs. Et paradoxalement, ça a eu au moins un effet heureux. Dans sa troisième phase, mais nous en parlons. Le plan Condor prévoyait que les opposants de gauche seraient traqués et éliminés jusque dans les pays européens où ils avaient parfois trouvé refuge. Bien informés, les services ont fait en sorte qu'aucun assassinat n'ait lieu sur le sol français.
Ah, ça, j'en prends acte. Hein. Enfin, ça ne m'empêche quand même pas de me poser des questions sur les étranges rapports entretenus avec les assassins du plan Condor.
Je suis d'accord avec vous. Ouais.
Alors, bon, reprenons où nous en étions restés. Hein. On savait que le plan Condor existait, mais on ne connaissait pas son ampleur, c'est bien ça?
Oui, et on a découvert un peu par hasard la vérité, enfin, une partie de la vérité.
Et comment alors?
En 1992, Martin Almada, un avocat paraguayen, un peu curieux, trouve dans un commissariat désaffecté de la banlieue d'Ascension des tonnes d'archives.
Mais vraiment par hasard?
Oh, pas tout à fait, cet avocat cherchait. Il a trouvé, et sa découverte a dépassé de loin tout ce qu'il imaginait. Car il y avait là des milliers de lettres, de documents, de fiches et même des cassettes audio, des cassettes d'interrogatoire.
D'interrogatoire de détenus.
Oui. Almada avait souvent la preuve qu'il avait bien existé une internationale du crime politique. Ces archives de la terreur, comme on les a appelées, étaient accablantes. Et elle permettait de remonter à la genèse de cette sainte alliance des bourreaux, c'est-à-dire le plan Condor. Je dois aussi vous dire qu'il n'y avait pas que des archives dans ce lieu désaffecté.
Quoi d'autre encore, hein?
Des cadavres. Ah. Des cadavres de détenus dissimulés dans une fosse. On pense qu'il s'agit peut-être des corps des hommes qui avaient construit le bâtiment.
Et qu'on a fait disparaître ensuite pour préserver le secret, c'est
vraisemblablement.
Ouais. Enfin, c'est quand même étrange que ces archives n'aient pas été détruites.
C'est vrai. Alors l'explication, c'est sans doute que les policiers paraguayens, surpris par la chute de la dictature de Stroessner, n'en ont pas eu le temps. Ils ont simplement déposé de la chaux-vif sur les papiers, mais ça n'a pas suffi à les faire disparaître.
Ouais. Hein. Alors, ces documents.
J'y viens. Mmh. Mais un mot avant, si vous voulez bien. Il y en avait pour des tonnes, vous ai-je dit. Et l'avocat Almada n'a pas pu transporter ses archives tout seul.
Ouais, mais il s'est fait aider, quoi.
Oui. Ouais. Et curieusement, au cours de ce transport, certaines pièces ont été égarées. Et pas n'importe lesquelles.
C'est-à-dire?
D'après des témoins dignes de foi qui ont vu les archives au commissariat, enfin, là où Almada les a trouvées, mm-hmm. des documents impliquant les États-Unis ont disparu.
Ouais. J'imagine qu'ils n'ont pas été perdus pour tout le monde.
Évidemment. Toutefois, en 2000, la déclassification de certains documents de la CIA a permis de reconstituer une partie du puzzle. L'événement fondateur, c'est naturellement le coup d'État du général Pinochet.
Oui, et d'après ce que vous m'avez dit, hein, il n'y a pas si longtemps, la CIA a joué un rôle primordial dans cette affaire.
Oui, les Américains voulaient absolument se débarrasser de Salvador Allende, soupçonné de conduire le Chili vers le communisme. Et il est certain que Nixon et son secrétaire d'État, Kissinger, ont été les vrais initiateurs et les maîtres d'œuvre du putsch de Pinochet.
Oui, vous avez parlé d'événements fondateurs, hein, à propos de ce putsch.
En effet. Car très rapidement, les nouvelles autorités chiliennes se dotent d'une redoutable police secrète, la DINA, dirigée par un proche de Pinochet, le général Manuel Contreras Sepúlveda.
Mmh. L'homme dont vous m'avez dit, enfin dans la première partie de cet entretien, hein, faut le rappeler, qu'il avait été un peu l'inventeur du plan Condor.
Tout à fait exact. Et il faut préciser que ce général entretenait des rapports très étroits avec les services américains, puisqu'il a été rétribué par la CIA au moins jusqu'au milieu des années 70.
Ah oui, ça c'est clair. Hein.
C'est sa police secrète qui sera responsable de la majeure partie des arrestations arbitraires, des tortures, des exécutions sommaires et des disparitions qui vont frapper le pays. Pour les militaires chiliens, il s'agit de détruire physiquement toute opposition.
Et surtout l'opposition de gauche.
Bien sûr. Je vous rappelle que seuls les militants du MIR, un mouvement d'extrême gauche, ont choisi de rester au Chili et de mener la lutte clandestine contre la dictature. Beaucoup, d'ailleurs, le paieront de leur vie. Mmh. Mais d'autres opposants se sont exilés, souvent dans les pays voisins. Et Contreras n'entend pas pour autant les laisser en paix.
Alors, d'où l'idée d'une coopération entre les polices d'Amérique du Sud.
Oui. Le second fait qui va présider à la naissance du plan Condor, c'est l'arrivée au pouvoir de militaires dans les pays de la région.
Ouais, donc des dictatures.
Au Brésil, c'est au milieu des années 60 que les généraux se sont imposés par la force.
Ouais. Mmh.
Et ils mènent une lutte féroce contre les guerrieros qui leur résistent.
C'est-à-dire les hommes de Carlos Marighella.
Oui, Marighella sera abattu sans sommation en 1969. À noter que Castelo Branco, le premier général qui fera tomber le président élu, Raoul Goulart, était un ami intime de l'ambassadeur américain, Vernon Walters.
Oui, c'est un homme qui sera plus tard un des dirigeants de la CIA.
Son directeur adjoint, oui, c'est ça. Oui.
Mais, enfin, est-ce que vous n'avez pas tendance quand même à voir la CIA partout?
C'est un reproche que vous m'adressez souvent, il me
semble. Oui, oui, oui.
Alors faisons le point une fois pour toutes. Je ne suis pas anti-américain et je n'oublie pas ce que nous devons aux États-Unis. Mais il ne faut pas pour autant exonérer les Américains des crimes qu'ils ont commis au nom de la lutte contre le communisme. Démocrates chez eux, ils ont à l'extérieur soutenu les pires dictatures, vous le savez bien.
Oui, alors enfin, d'accord, inutile de vous emporter.
Je suis très calme, rassurez-vous.
J'en prends note. Donc, au Brésil, les militaires, enfin sans doute appuyés par la CIA, d'après vous, se sont emparés du pouvoir. Et ailleurs?
Au Paraguay, c'est en 1954 que le général Stroessner a balayé le pouvoir civil. Mmh. Et il battra une sorte de record, puisque ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'il cédera la main. Stroessner, qui vit une retraite paisible au Brésil, a été l'un des plus féroces dictateurs du continent. Songez que plus de 300 000 Paraguayens, le dixième de la population donc, ont été enfermés dans les geôles du pays.
Ouais, là aussi, c'est une sorte de record.
Oui, un record assez sinistre. Hein, oui.
Ouais. Et dans le pays voisin, l'Uruguay?
C'est en 1973, si mes souvenirs sont bons, que les militaires prennent le pouvoir. Pour la forme, ils ne destituent pas le président, mais c'est une fiction. En réalité, ce sont eux qui gouvernent. Et d'ailleurs, 3 ans plus tard, ils se débarrasseront de ce président d'opérette. En Bolivie, un putsch a porté au pouvoir le général Hugo Banzer. Le Brésil et les États-Unis l'ont soutenu.
Alors, je compte bien, il reste l'Argentine.
Mais c'est un petit peu plus compliqué. Il y a d'abord eu Perón, qui n'était certainement pas un modèle de démocrate. Mais au milieu des années 50, Perón a été renversé par un coup d'État militaire. La suite est assez chaotique. Jusqu'au retour de Perón, en 1973, un an plus tard, il meurt.
Ouais, c'est sa jeune épouse, hein, Isabel Lita, qui lui succède.
Oui, mais toutefois, la réalité du pouvoir est dans les mains de José López Rega, un ancien commissaire de police qui a créé un groupe d'extrême droite en liaison avec l'armée et les forces de sécurité. Un groupe qui va former de véritables escadrons de la mort chargés de pourchasser les militants de gauche ou d'extrême gauche.
Oui, parce qu'en Argentine aussi, il faut le dire, il existe des guerrieros.
Oui, trois mouvements bien organisés, dont les fameux Montoneros. Oui. Et comme le gouvernement argentin, malgré ses tristement célèbres escadrons de la mort, peine à les éliminer, en 1976, les militaires déposent Isabelita et finissent par assumer eux-mêmes le pouvoir. Désormais, dans les pays de ce qu'on appelle le cône sud, tout est en place pour que le plan Condor donne la mesure de son effroyable efficacité.
Les crimes de M. Kissinger, un livre de Christopher Hitchens, est paru en 2001 aux éditions Saint-Simon. L'auteur revient sur les exactions des promoteurs du plan Condor et il accuse. Tous ces crimes ont été commis alors que Kissinger était secrétaire d'État et ils étaient et demeurent encore punissables, tant selon les lois internationales que locales. Nul ne peut prétendre, ni lui, ni ses défenseurs, ignorer la réalité de la situation ou ne pas en avoir eu une conscience aiguë. Un mémorandum secret, déclassé en 1999, révèle les détails épouvantables d'une conversation privée qu'il eut le 8 juin 1976 à Santiago du Chili avec Pinochet. C'était le jour précédant son discours devant l'Organisation des États américains, l'OEA, à propos des droits de l'homme. Kissinger s'efforçait d'expliquer à Pinochet que les quelques remarques purement formelles qu'il devait faire à ce sujet ne devaient en aucune manière être prises au sérieux. Extrait de ce mémorandum secret, je cite, c'est Kissinger qui parle. Je traiterai des droits de l'homme en termes généraux et dans un contexte mondial. Je ferai référence, dans deux paragraphes, au rapport de la Commission des droits de l'homme de l'OEA sur le Chili. Je préciserai que la question des droits de l'homme a nui aux relations entre les États-Unis et le Chili, en partie à cause des démarches faites par le Congrès. J'ajouterai que j'ai l'espoir que vous pourrez écarter rapidement ces obstacles. Je ne peux pas en faire moins sans déclencher aux États-Unis une réaction qui entraînerait des restrictions législatives. Mon discours n'est pas orienté contre le Chili, je voulais vous le dire, d'après mon évaluation de la situation. Vous êtes en fait la victime de tous les groupes de gauche du monde entier et votre plus grand péché a été d'avoir renversé un gouvernement qui était en train de virer au communisme.
L'émergence des dictatures en Amérique du Sud est un peu l'illustration de la théorie des dominos. Les démocraties s'écroulent les unes après les autres. Or, les généraux qui arrivent au pouvoir dans ce pays se connaissent très bien.
Très bien. Vous avez une explication ?
Bien sûr. Il existe alors une organisation très discrète qui s'appelle la CEA, la Conférence des armées américaines. La CEA regroupe la plupart des chefs militaires du continent.
C'est-à-dire du Nord et du Sud, donc.
Oui. Les réunions se tiennent à Panama ou aux États-Unis. Oui.
Je pense que c'est logique que les Américains doivent avoir une place prééminente dans ces réunions.
Mais forcément, en fait, soyons clairs, c'est une organisation parfaitement représentative de la guerre froide.
Une organisation anticommuniste.
Oui. Et même si je n'en ai pas la preuve, je suis certain que l'idée du plan Condor est née là. Dans ces réunions au sommet des généraux latino-américains et d'Amérique du Nord.
Oui. Une collusion, donc, entre futurs dictateurs.
Oui, en fait, le principe du plan Condor est très simple. La coopération entre les forces de sécurité, police et armée des six pays du cône sud doit permettre de lutter avec efficacité contre l'ennemi commun, la subversion. Dans les ambassades respectives de ces pays, on constitue donc des cellules spéciales uniquement chargées de cette tâche. Bien sûr, ces structures sont secrètes.
Oui, parce que leur véritable mission ne doit pas apparaître.
Non. Et on prétend que ces militaires ou ces policiers détachés dans les ambassades sont, par exemple, chargés de lutter contre les narcotrafiquants en collaboration avec leurs homologues du pays.
Une couverture.
Ça veut dire en tout cas que pour ces hommes qui traquent les opposants de gauche, il n'y a plus de frontières. Les agents chiliens peuvent intervenir en Argentine ou en Uruguay, et la réciproque est vraie. C'est un véritable réseau qui a été créé par le biais de ces attachés d'ambassade.
Et vous avez des exemples de coopération ?
Oh, sont innombrables. Prenons le cas d'un militant argentin, Jorge Alarcón. Il est arrêté par des policiers paraguayens, mais son interrogatoire est effectué en présence d'Argentins. Et finalement, il est remis à la DINA, la police secrète chilienne du général Contreras. On ne l'enverra jamais. Où est donc la coopération est totale.
Il s'agit donc aussi de brouiller les pistes.
Certainement, comme dans ce roman policier où deux meurtriers qui vivent très loin l'un de l'autre échangent leurs victimes.
Ouais, je tue pour toi, tu tues pour moi.
C'est ça. Ils disposent donc tous les deux d'un parfait alibi.
Ouais, en outre, ils sont insoupçonnables puisqu'ils ne connaissent pas leurs victimes.
Exactement. Le résultat, c'est qu'il va exister une véritable interconnexion entre tous ces polices.
Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi dans ce pacte passé entre les dictatures, échange d'informations.
Naturellement, les hommes du plan Condor vont constituer un gigantesque fichier.
Et ce sont ça, les archives de la terreur qui seront découvertes plus tard par l'avocat paraguayen.
Oui, mais avant d'aller plus loin, je voudrais signaler qu'un septième pays d'Amérique du Sud a refusé de rejoindre cette Sainte Alliance. C'est le Venezuela. Bon, le fichier donc. Ce qu'élaborent les hommes du plan Condor, c'est une sorte d'Interpol qui ne traquerait que les hommes et les femmes soupçonnés d'être des militants de gauche.
Et d'extrême gauche.
Bien entendu. Mais vous savez, pour ces militaires sud-américains, il suffisait d'être un simple démocrate ou pire, un défenseur des droits de l'homme pour être fiché comme un dangereux communiste. Mais les dictatures vont aller encore plus loin.
Plus loin, c'est-à-dire ?
Au Paraguay, qui est situé au centre géographique des pays du plan Condor, il semble bien qu'ait été mis en place un véritable tribunal secret.
Pour juger ses opposants ?
Oui, ce tribunal aurait été constitué par les attachés militaires en poste à Asunción.
Mais vous employez le conditionnel.
J'y suis obligé. Car toute la lumière n'a pas encore été faite sur ces affaires. J'ajoute que c'était aussi au Paraguay que se trouvait la direction économique du plan Condor.
Mais comment expliquer qu'un quart de siècle, quand même, après ces événements, il demeure des zones d'ombre?
C'est très simple. Dans la plupart de ces pays, avant de quitter le pouvoir, les généraux ont pris soin de faire voter des lois d'amnistie les protégeant. Au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay. Et si des enquêtes ont permis d'incriminer certains d'entre eux, c'est parce qu'elles ont été lancées par des défenseurs des droits de l'homme.
Il y a aussi des juges étrangers qui ont ouvert des procédures à propos de la disparition, par exemple, de certains de leurs concitoyens d'Amérique du Sud.
Vous avez raison, oui. C'est le cas du fameux juge espagnol Garzón qui a inculpé le général Pinochet. Et qui a bien failli obtenir son extradition. Mais en France aussi, Pinochet fait l'objet d'une procédure judiciaire. Toutefois, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Dans la plupart des cas, l'armée refuse de collaborer et protège les siens.
Ouais, ce qui n'est guère rassurant pour l'avenir des démocraties de la région.
Oui, car beaucoup d'officiers qui ont participé activement à la répression sont demeurés en place. Et les services secrets n'ont pas été purgés comme ils auraient mérité de l'être. Par conséquent, le danger demeure. Et à la faveur de troubles économiques, comme en Argentine aujourd'hui, les militaires pourraient bien en reparaître. D'ailleurs, il n'est pas exclu que certains nostalgiques du plan Condor ne soient restés secrètement en relation.
Mais prêts à conspirer?
Pourquoi pas. J'espère que l'avenir me démentira, mais à vrai dire, je n'en suis pas très sûr.
Revenons, si vous le voulez bien, aux origines du plan Condor. C'est donc ce Contreras, le patron de la DINA, la police secrète chilienne, qui en est à l'origine.
Tout à fait. Et Contreras ne faisait qu'obéir à son maître, Pinochet. Je crois l'avoir dit, à l'intérieur du pays, malgré l'opposition clandestine des révolutionnaires du MIR, la DINA faisait la loi. Elle pouvait arrêter, torturer, assassiner sans aucun contrôle. C'était un État dans l'État. Mais ce qui posait problème, c'était les milliers d'exilés qui avaient fui après le putsch.
Et qui s'étaient souvent réfugiés dans les pays d'Amérique du Sud.
Surtout en Argentine. Ces exilés représentaient une menace pour le régime de la dictature, parce qu'ils se livraient à une intense propagande.
Et il fallait donc les liquider, quoi.
Oui, et à l'automne 1974, avant même que le plan Condor ne soit réellement adopté par les pays du cône sud, l'ancien commandant de l'armée chilienne, Carlos Prat, un fidèle du président Allende, saute sur une bombe à Buenos Aires. Son épouse périt également dans l'attentat.
Ouais. On connaît les assassins ?
On l'apprendra plus tard, oui. C'est un commando chilien qui a mené l'opération sous le commandement d'un Américain, un certain Tom Lay, qui appartient ou a appartenu lui aussi à la CIA.
Décidément, hein.
Eh oui, et on retrouvera ce Tonley dans plusieurs autres affaires. En particulier dans l'exécution d'un autre assassinat d'un opposant chilien, à Washington cette fois. Une affaire qui fera grand bruit, mais nous en parlons parce que, pour la première fois, on lèvera un coin du voile.
Tout a vraiment commencé, a dit Monsieur X, avec le putsch du général Pinochet. C'est aussi la conviction du juge d'instruction espagnol Garzón qui a fait arrêter l'ancien dictateur alors qu'il séjournait à Londres. Et il est intéressant de se reporter à la demande d'extradition telle qu'elle a été formulée par le juge. En voici un extrait, publié par le journal Le Monde en février 1999. À l'échelle internationale, une coordination avait été formée sous le nom d'opération Condor. Son objectif, coordonner l'action répressive. Augusto Pinochet Ugarte, alors chef des forces armées et de l'État chilien, ordonna l'élimination physique, la torture, l'enlèvement et la disparition de Chiliens et de personnes d'autres nationalités au Chili et ailleurs dans le cadre des agissements des services secrets, la DINA et selon le précité plan Condor, et le juge de citer 79 cas supposés entrant dans cette qualification. Dans son deuxième chapitre, la demande d'extradition ajoute que Pinochet apparaît comme l'un des principaux responsables et le leader d'une organisation internationale créée en coordination avec des responsables militaires ou civils d'autres pays, principalement l'Argentine, pour concevoir, développer et exécuter la planification systématique des détentions illégales, tortures, déplacements forcés, assassinats et ou les disparitions de nombreuses personnes, y compris des Argentins, des Espagnols, des Britanniques, des Américains, des Chiliens et d'autres nationalités. Le but ? Atteindre les objectifs politiques et économiques de la conspiration.
Quand Carlos Prats est assassiné à Buenos Aires, les militaires argentins n'ont pas encore pris le pouvoir.
Non, mais les escadrons de la mort sont déjà au travail. Et toutes les nuits, on retrouve des cadavres dans les décharges.
Des cadavres de Chiliens ?
Et d'Argentins. La machine de la terreur est déjà en marche. Et après le putsch de Videla et des autres, elle va prendre son rythme de croisière. De tous les pays rassemblés autour du plan Condor, c'est l'Argentine qui a perfectionné au plus haut point le système. On a même pu parler de modèle argentin.
De modèle de dictature.
Et de politique répressive. C'est en Argentine qu'on a systématiquement torturé dans les écoles de guerre. La marine, en particulier, où a sévi l'ignoble capitaine Astiz. Faudra aussi parler de tous ces enfants qu'on a séparés de leur mère après l'accouchement et qui ont été confiés à des familles de militaires.
Des enfants volés.
Oui, et les mères ont ensuite disparu. Ouais,
assassinés.
Vous en doutez ? Certains de ces enfants ont été retrouvés, vous le savez sans doute. Mais combien d'autres le seront jamais ? Et combien de bourreaux continuent-ils à vivre en paix, protégés par leurs pères, officiers ou membres des services de renseignement ?
D'après ce que vous savez, alors, le plan Condor est appliqué jusqu'à quelle date ?
Jusqu'au début des années 80.
C'est-à-dire le moment où les dictatures céderont peu à peu le pas devant les démocraties ?
Oui. Enfin, il me reste maintenant à vous parler de la phase ultime du plan Condor. Les contre-terroristes latino-américains ne se sont pas contentés d'agir chez eux. Ils ont voulu étendre leur champ d'action.
C'était sortir du cône sud.
Oui, il leur fallait se débarrasser de tous les exilés de Marx, ceux qui, depuis l'étranger, continuaient la lutte politique. Et c'est là que nous retrouvons l'assassin de Carlos Prats.
Ce Tanley, c'est ça?
En effet. L'Américain, qui est le tueur préféré du Chilien Manuel Contreras, est d'abord envoyé à Madrid. Franco règne encore et il est facile d'installer en Espagne une solide antenne de la DINA, la police secrète chilienne.
Avec toujours comme objectif pour chasser les opposants chiliens.
Et les éliminer physiquement. Mmh. Ensuite, Tonley fait un véritable tour d'Europe. À chaque fois, il prend langue avec les mouvements d'extrême droite existants. Il compte s'appuyer sur eux pour repérer et ficher leurs exilés.
Mais vous m'avez dit qu'en France, il n'interviendra pas. Hein ?
C'est juste, les services étaient parfaitement informés et Tonley ne pourra pas nuire dans notre pays. Dernière étape de son voyage, l'Italie. Tonley prend naturellement contact avec les néofascistes. L'Italie vit alors ce qu'on a appelé les années de plomb.
Oui, d'un côté les brigades rouges et de l'autre l'extrême droite.
Et les attentats, les exécutions se succèdent.
Oui. On a aussi appelé ça la stratégie de la tension.
Oui, pour la CIA qui tirait les ficelles d'un certain nombre de ces mouvements terroristes, il fallait faire échec à une éventuelle participation des communistes au gouvernement. Ça veut dire en tout cas que dans un tel climat, Tonley se trouve comme un poisson dans l'eau. Et contre la promesse de livraison d'armes et d'argent, il n'a vraiment aucun mal à convaincre les néofascistes italiens de mettre sur pied un véritable réseau de renseignement.
Oui, toujours pour surveiller les exilés chiliens.
Et là encore, les liquider physiquement. Et c'est ce qui se passe en octobre 75. Un commando tire sur Bernardo Leighton, un démocrate chrétien qui a été vice-président du Chili. Leighton échappe à la mort, mais son épouse est touchée. Elle demeurera paralysée à vie. Inutile de vous dire que Tonley, lui, n'a pas tardé à quitter l'Italie.
Et on va le retrouver où ?
Plusieurs mois plus tard, aux États-Unis, lors d'une affaire qui va, à terme, changer la donne du plan Condor.
Alors, de quoi s'agit-il, ça ?
En septembre 1976, une voiture piégée explose à Washington, pas très loin de la Maison Blanche. À l'intérieur, il y avait le chef de l'opposition chilienne en exil, Orlando Letelier, ancien ambassadeur aux États-Unis. Mais, point très important, à ses côtés se trouvait également une de ses collaboratrices, une américaine.
Ils ont trouvé la mort tous les deux ?
Oui. Mmh.
Et pourquoi alors insistez-vous sur la présence de cette américaine ?
Parce qu'elle est américaine, justement, et que les autorités fédérales vont faire tout ce qu'elles peuvent pour retrouver les assassins d'une citoyenne américaine.
Mais parce que Letelier, lui...
Je suis persuadé que le FBI n'aurait pas mis autant d'acharnement à enquêter s'il ne s'était agi que de cet opposant chilien. D'autre part, les Américains n'ont pas apprécié que les contre-terroristes interviennent sur leur territoire.
Alors ça veut dire que le FBI est chargé de l'enquête ?
Oui, et c'est le chef de son antenne de Buenos Aires qui est chargé de mener les investigations.
Ça veut dire que les Américains ont une idée très précise sur l'origine de l'affaire.
Hein. Naturellement. Plus tard, la CIA prétendra qu'elle n'a découvert l'existence du plan Condor qu'à l'occasion de l'assassinat d'Orlando Letelier. C'est bien sûr un mensonge. Les Américains étaient au courant depuis le début.
Alors, l'enquête.
Le FBI remonte la piste et à la CIA, on fait la grimace. Le commanditaire s'avère être Manuel Contreras, le chef de la police secrète chilienne, et l'exécutant n'est autre que Stanley. Des révélations très embarrassantes pour la Maison-Blanche. Il ne faut pas oublier que Contreras, c'est un homme très proche du général Pinochet.
Ouais. Et quelles en seront les conséquences?
Concrètement, Pinochet devra se séparer de Contreras, qui sera d'ailleurs jugé par la justice américaine et emprisonné au Chili. Mais l'important, c'est qu'on a soulevé un coin du voile sur cette extraordinaire organisation de la terreur.
Mais est-ce que ça met pour autant fin au plan Condor?
Non. Non, les bourreaux vont encore continuer à torturer et tuer pendant des mois, des années. Mais il est certain que les Américains vont prendre peu à peu leur distance, surtout sous la présidence Carter. Mais très paradoxalement, c'est plus tard, dans les années 80...
80, donc, sous Reagan.
Oui, Reagan, pourtant républicain comme Nixon, Kissinger. C'est donc sous sa présidence que les Américains se rendront vraiment compte qu'ils sont allés trop loin dans leur soutien aux dictatures. Et ils participeront même à leur liquidation.
Ouais. Et à votre avis, alors? Toute la lumière a été faite sur le plan Condor?
Non. N'oubliez pas qu'il y a eu au minimum 35 000 disparitions dans les pays du cône sud. Toutes sont loin d'avoir été élucidées.
Et malgré la découverte de ces archives de la terreur, comme vous avez dit.
Bien entendu, et beaucoup d'affaires demeurent mystérieuses. Je ne vous en citerai que deux. L'étrange mort de deux anciens présidents brésiliens, João Goulart et Juscelino Kubitschek.
Ouais, c'est-à-dire le bâtisseur de Brasilia.
Lui-même. Il a péri en 1976 dans un accident de voiture. L'auto a fait une curieuse embardée.
Sabotage?
Vraisemblablement. Quant à Goulard, il est mort 4 mois plus tard en Argentine. Accident cardiaque, a-t-on prétendu. Mais ça faisait longtemps que l'ancien président vivait dans la terreur, surtout depuis le putsch des généraux argentins.
Et tout à l'heure, vous m'avez semblé très, très pessimiste.
Oui, parce qu'un jour, un autre plan Condor pourrait bien voir le jour. La CEA, cette conférence des armées américaines, existe toujours. Ça n'est pas très rassurant.
D'après M. X, l'implication des Américains dans le plan Condor ne semble donc pas faire de doute. C'est aussi l'opinion d'un enquêteur du magazine Marianne. Dans un numéro de décembre 1998, voici en effet ce que je lis. Les Américains assurent la formation des cadres de l'appareil répressif. À la fin de 1975, plus de 76 000 soldats et officiers sont instruits aux États-Unis aux méthodes de contre-terreur, de propagande et de guerre psychologique. Ces centres de formation sont baptisés par dérision les écoles de putschistes. Située dans la zone du canal de Panama, l'école de guerre interaméricaine de Fort Gulick forme la majeure partie des exécutants du plan Condor. En 1974, elle fête son 30 millième élève, selon une brochure de l'époque. Sa fonction est d'orienter la formation du personnel latino-américain qualifié en vue d'améliorer sa capacité professionnelle en ce qui concerne le maintien de la sécurité intérieure ainsi que la contribution militaire au développement. Pas moins de 170 chefs d'État, ministres, chefs d'État-major et chefs des services de renseignement latino-américains sont alors diplômés de cet inquiétant établissement. Selon le mot d'un sénateur américain, on y trouve la plus répugnante assemblée de tortionnaires ayant les mains couvertes de sang. À noter enfin qu'en mai 2001, le juge d'instruction français, Roger Leloir, a profité d'une visite à Paris de Henry Kissinger pour lui envoyer une convocation. Le magistrat voulait l'entendre en tant que témoin sur les éventuelles responsabilités américaines dans la mise en place du plan Condor. En effet, parmi les récents documents déclassifiés par la CIA, l'un d'eux émanait directement de Kissinger. Mais l'ancien secrétaire d'État a quitté Paris sans déférer à la convocation du juge.